Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis, votre émission consacrée aux jeux de société. Vous en avez l'habitude, maintenant c'est tous les midis, votre pause déjeuner. Et au menu aujourd'hui, c'est Le Bon, la Chèvre et le Truand, un jeu de Sergio Alaban, illustré par Weberson Santiago pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et édité par Igari. Alors, dans ce jeu, vous allez devoir bluffer pour l'emporter. Parfois, vous allez voler, voire tuer, à vous d'être le plus malin en refilant les personnages que vous ne souhaitez pas, le but étant à la afin d'avoir le plus d'argent. Au niveau du matériel, vous avez des cartes personnages comme le hors-la-loi, le shérif, le voleur, la fermière, le cow-boy, la serveuse, au total il y en a 15. Vous allez disposer la tuile saloon et au-dessus différents lieux comme la banque ou encore le ranch. Selon le nombre de joueurs, on ne jouera pas avec tous les lieux et tous les personnages. Vous posez également sur la table les différentes ressources et pièces. Pour commencer, chaque joueur va recevoir 2 pièces et une bouteille. Voilà, vous êtes prêts à jouer, c'est parti pour 3 ou 4 manches. Mais alors, comment on joue? Tout d'abord, on va placer sur les tuiles lieu les jetons ressources et ou pièces indiquées sur celles-ci. Puis on va retirer 2 cartes personnages, une sera face visible et l'autre fera face cachée. Ensuite, eh bien, l'un des joueurs, appelé le donneur, va piocher 4 cartes. Il va en choisir une et la proposer à l'un des joueurs. Attention, hein, il doit lui dire le personnage qu'il lui donne, mais il peut bluffer. Il doit juste dire le nom d'un des 4 personnages qui composent sa main. Je peux dire « je te donne la fermière » alors que c'est une chèvre. Mais ça, forcément, il ne le sait pas. Ce joueur peut donc accepter la carte. Si c'est le cas, bah, il place un petit chapeau à sa couleur dessus pour dire que cette carte lui appartient. S'il la refuse, dans ce cas, bah, c'est le donneur qui récupère la carte. La carte sera placée ensuite à côté de la tuile lieu qui lui est destinée. Certains personnages ont des actions immédiates. Dans ce cas, vous pouvez récupérer les ressources de la tuile. Ensuite, le donneur passe les 3 cartes au joueur suivant et en repioche une pour en avoir 4 en main. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur a placé son deuxième petit chapeau. Il devient donc inactif. Il pourra redevenir donneur quand il ne restera qu'une personne active. Quand tous les joueurs ont placé leur chapeau, eh bien, il est temps de vérifier le saloon. Faut savoir qu'il y a un ordre. Eh oui, dans le saloon. Le premier, c'est le hors-la-loi, puis le shérif, ensuite le voleur, le charlatan, la serveuse et le joueur. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les personnages seront présents, mais prenons un exemple. Si vous avez joué le hors-la-loi, bah vous tuez le shérif et vous gagnez 4 pièces. En revanche, si le shérif n'est pas là, vous ne gagnez rien. Le shérif, lui, pourra arrêter le voleur, sauf bien sûr si le hors-la-loi ne l'a pas tué avant. Vous avez compris le système? Quand on a résolu le saloon, on recommence une nouvelle manche. Au bout de la 3ème ou 4ème, si vous jouez à 2, le joueur avec le plus d'argent, pièces et ressources, l'emporte. Alors ce que j'en pense du bon de la chèvre et le truand, bah c'est un jeu de bluff, hein, comme je les aime, vous allez tout faire pour parfois garder une carte ou la refiler. Bon, c'est sûr, personne ne voudra la chèvre, elle ne rapporte rien. Une chose est sûre, vous avez plaisir à piéger les autres joueurs. Voilà, donc ça s'appelle Le Bon, la chèvre et le truand, à ne pas te confondre avec Le Bon, la brute et le truand. Ça vient de sortir donc chez Igari. Voilà, allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo. Oui, on va faire une petite rediff du point sur les J.
C'est la pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les J.
Et celui qui donne ton avis, c'est Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème sur la locomotive. Alors pas les aventuriers du rail, encore que. Un éditeur pour vivre doit-il avoir une locomotive, Ludo?
Exactement. Alors déjà, on va définir ensemble ce que ça veut dire, économiquement parlant, une locomotive.
Oui, voilà,
parce que
exactement.
C'est un terme qui n'est pas toujours utilisé. Donc une locomotive, c'est soit une personne ou un objet qui joue un rôle moteur dans un secteur particulier.
Mm-hmm.
Alors ici, dans le domaine du jeu de société, on va appeler locomotive un jeu dont les ventes sont à la fois très hautes et donc génèrent beaucoup de profits, mais aussi sur une longue durée.
C'est ça,
c'est important. Parce que la locomotive, eh ben, elle parcourt du chemin.
C'est ça, il ne faut pas juste faire un TGV qui fait un aller-retour. Hein.
Ouais, non, voilà, c'est sur une grande période. Alors, il y a Seven Wonders, les aventuriers du rail, comme tu l'avais dit, donc le rapport entre la locomotive et les aventuriers du rail, il est très très facile à faire. Alors, d'après l'Union des éditeurs de jeux, il va exister actuellement en 2024 194 éditeurs de jeux de société en France et aux alentours,
d'accord,
dont 68 qui sont en statut d'auto-édition.
Okay.
Donc un tiers, on va dire. Il existe aussi 15 distributeurs, alors plus ou moins gros, hein, je vais pas les détailler, mais entre Hachette et puis un petit distributeur local, tu comprendras bien que les données et puis les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors, selon le blog suisse de mon ami Gus, depuis 5 ans, c'est plus de 3500 nouveaux jeux de société qui sortent chaque année sur le marché.
Ouais.
Alors, avant, on disait 1000, mais parce qu'on comptait pas les extensions, les rééditions,
d'accord,
etc. Mais quand on met tout dans le même panier, on est à 3500 jeux de société. On va enlever le mot nouveau et on va mettre un jeu de société. En 2022, c'est l'Amérique du Nord qui détient 28%, un peu plus de 28% du marché,
okay,
et qui est donc le plus gros marché du monde. Ensuite, on a l'Asie Pacifique qui constitue le second marché avec environ un peu plus de 5 milliards de dollars de revenus, et l'Europe, nous-mêmes, on arrive troisième avec environ 4,3 milliards de dollars. Alors, tu vas me dire pourquoi toutes ces données là de macroéconomie?
Mais oui.
Eh ben, parce qu'en fait, maintenant, c'est juste pour montrer que le marché français ne suffit plus, en fait, pour vivre et pour
un
éditeur. Il faut inonder, abreuver, travailler avec le marché mondial. Et pour pouvoir franchir donc les frontières de son pays, la barrière de la langue, par exemple, pour le marché français, donc il y a aussi la Suisse et la Belgique, il faut exporter. Alors, en export, en jeu de société, ça signifie souvent des grosses ventes. Et donc, soit le jeu plaît sur le papier et le partenaire international qui est responsable de la localisation est trouvé avant la sortie du jeu, soit, et c'est souvent le cas d'ailleurs, le partenaire va attendre de voir comment le jeu se vend sur son marché principal,
ouais,
notamment par exemple en France, pour ensuite décider une localisation ou non. Et ce dernier détail-là, ça peut prendre plus d'un an après, en fait, la sortie nationale du jeu.
Ah oui, d'accord.
Pour ça qu'il y a des salons professionnels qui sont là pour uniquement trouver des partenaires étrangers. Et SN en est un aussi. C'est aussi une vitrine. Donc, dans ce dernier cas de figure, les gros distributeurs, eux, ils ont des filiales, tu vois, sur d'autres marchés. Et ils n'ont pas besoin d'attendre, en fait, la signature d'un contrat, comme Asmodée. Asmodée,
oui,
vont avoir Asmodée USA, Asmodée Asie, etc. Donc, en fait, les accords sont déjà signés sur le long terme. Donc, quand tu as une sortie qui est faite chez un studio d'Asmodée, dans la grosse majeure partie du temps, le jeu, il va déjà être prévu en production et en distribution à l'international.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, les blockbusters ludiques s'exportent beaucoup plus facilement, hein, comme les Unlock, Aventuriers du Rail ou autres zombicides, car le simple fait que les jeux soient installés et qu'il y ait une forte communauté autour permet de faire sauter les doutes sur les risques de retour sur investissement par rapport aux partenaires.
Ouais.
Alors du coup, comment faire si un éditeur n'arrive pas à sortir un jeu phare rapidement? Alors, si l'éditeur c'est un studio d'un grand groupe, c'est un peu plus facile parce que dans un premier temps, il va bénéficier des accords qu'il y a avec les distributeurs étrangers qui sont même parfois des filiales du groupe.
Ouais.
Et si plusieurs jeux ne marchent pas, faut faire attention quand même car un studio peut être revendu ou disparaître totalement comme ça a été le cas de Pearl Game.
Ouais. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a des studios, eux, ils ont plein de locomotives, j'ai envie de te dire.
Oui, alors... pour pouvoir faire ça, nous on a aussi l'impression en tant que consommateur que parfois un jeu se vend très très bien, mais il faut aussi s'intéresser en fait à la marge du jeu.
Ouais.
C'est-à-dire que les ventes parfois ne suffisent pas. Je prends des exemples de Kickstarter où ça va être des jeux comme Zombicide qui vont quand même coûter quand même assez cher à la production, même
oui,
si au bout d'un moment les moules des figurines sont déjà amorties, mais un jeu comme prenons Zombicide ou Aventurier du Rail, les deux jeux à la production ne sont pas la même chose que pour un Splendor par exemple,
oui,
tu vois,
oui,
ou un Uno, voilà, tout simplement en fait. Alors pour qu'un éditeur rejoigne Asmodée ou Hachette, hein, les deux mastodontes du secteur ludique, il faut au préalable qu'il soit rentable. Donc qu'il y a déjà des assurances de revenus réguliers, donc c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que Asmodée va s'intéresser à racheter un éditeur? Alors c'est plus trop le sujet maintenant, mais ça l'a été à une époque où ça rachetait à tour de bras. Est-ce que c'est parce que l'éditeur a déjà un jeu phare ou grâce à ça il va avoir un jeu phare? Bon, là on n'en sait pas trop. S'il est indépendant, il va falloir qu'il ne quitte pas la vague de sorties annuelles et qu'il augmente sensiblement ses sorties en termes de nombre de jeux.
Mais oui.
Et là, il faut que sa structure lui permette, parce qu'en fait, on dit ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Quand on est un petit éditeur, eh ben, il faut qu'on essaye de se la faire un peu, on va dire, avec jugeote, et essayer de sortir plus de jeux, et en se disant, et c'est la mode hein, en ce moment, mais c'est aussi le modèle économique qui veut ça, en se disant, bah, dans l'eau, on croise les doigts, on espère qu'il y en a un qui va bien marcher,
et, oui.
Et on ne sait jamais, ça peut bien tomber. Ou alors, comme Bombix, par exemple, qui n'est pas un studio, mais qui est distribué par Asmodée,
oui.
Qui lui va choisir en fait de travailler beaucoup plus longtemps ses jeux, donc va en sortir beaucoup moins que la moyenne du nombre d'éditeurs de son calibre, mais par contre, ce sont des jeux qui vont être, en général, plus soignés, plus travaillés, etc. Le problème, c'est qu'il faut de la trésorerie pour pouvoir travailler longtemps sur un jeu. Il faut assumer des longues périodes sans entrée d'argent, mais en assumant quand même les divers frais, comme les salaires, les frais fixes, les festivals, etc. Alors, c'est pas facile, tout ça, et souvent, faut pas se louper sur la mise sur le marché de son premier jeu, d'où aussi le choix d'un bon distributeur qui vous assurera une première implantation satisfaisante. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, dès l'implantation du jeu, le jeu peut mourir prématurément. En fait, comme au cinéma, où les chiffres du jour de la sortie d'un film sont très importants, la semaine de sortie du jeu va donner un indicateur réel
important.
Sur sa vie future. D'ailleurs, même maintenant, pour les précommandes des boutiques, elles sont analysées pour savoir quelle implantation du jeu va avoir. Il y a eu Vichy, le salon, il n'y a pas longtemps, qui est un salon qui est spécifique en fait pour les boutiques, où là, en fait, les commerciaux des différents éditeurs, c'est une date cruciale pour eux parce que ça va être l'implantation des jeux, les futures commandes des jeux pour Noël. Et là, bah, il ne faut pas se louper. C'est-à-dire qu'il faut leur vendre du rêve à ces commerciaux.
C'est ça. Et quand t'as les boutiques qui disent « Oh bah celui-là, j'en prends pas », ah, c'est pas, c'est
et
pas
ben,
bon
ça
signe.
Va donner au bout d'un moment une idée en fait du fait que le jeu il soit mal vendu ou soit bah, il ne corresponde pas à une réalité de terrain. Et tu sais bien que plus le jeu est trouvable en boutique, bah, c'est logique, hein, c'est une napalissade, plus il a des chances d'être vu et d'être vendu, mais il faut que les ludicaires s'en emparent et puissent le vendre aussi correctement.
Et on parle notamment de ça pour les gros jeux, parce que les gros jeux aujourd'hui c'est compliqué pour les gros jeux
oui,
de sortir du lot.
Oui, les jeux dits experts, effectivement, il y en a de plus en plus qui sont vendus maintenant sur les boutiques des éditeurs directement en ligne, parce que bah, les ventes... pour toucher leur public, les ventes en boutique en dur ne sont pas satisfaisantes. Alors, le problème, c'est combien de temps l'éditeur peut tenir en surfant sur les ventes d'un jeu hein, qui a correctement marché, sans que ça soit un carton total. Bah, ça, c'est pareil, en fait, ça va dépendre en fait des ventes, de l'implantation, etc. La question est assez complexe et chaque réponse sera différente en fonction de la situation.
Ouais.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il suffit pas de s'y connaître en jeu de société pour être éditeur de jeu. Et avoir des compétences en comptabilité et en gestion, ça sera de toute façon un bon atout. L'éditeur peut aussi compter sur les influenceurs ou autres presse ludiques afin de pouvoir multiplier sa communication à moindre coût. Alors, on n'est pas aux États-Unis, hein, ici très peu de médias sont professionnels.
Il y en a quelques-uns,
mais c'est pas la majorité du tout.
Non.
Plutôt une majorité de contenu gratuit qui est mis à disposition, donc qui est proposé aux éditeurs et aux distributeurs.
Oui.
Bon, moi j'ai toujours trouvé ça étrange d'ailleurs que principalement la charge de la communication d'un jeu ne soit pas déléguée totalement à un distributeur. Et qui soit souvent à la charge de l'éditeur. D'ailleurs, bon, il y a des petites, subtilités qui doivent m'échapper, mais c'est vrai que parfois le distributeur a beaucoup de jeux et ton jeu, toi, en tant qu'éditeur, il est un peu noyé dans la masse.
Ouais.
Et s'ils mettent pas le doigt dessus à un moment donné, bah. Aïe, aïe, aïe.
C'est foutu.
Par contre, tu vois, Asmodée, ils viennent de faire quelque chose, ça évolue pas mal. Dans certains domaines, comme la communication et la gestion de la presse ludique, ils viennent en fait de regrouper les studios majeurs.
Oui.
Donc, ça permet aussi peut-être de capitaliser, de synthétiser et de normaliser certaines choses qui n'étaient pas avant. Et peut-être que ça va être aussi un début de mode. Ça signifie aussi que l'éditeur il va privilégier très souvent un média qui a une forte audience, hein, du coup, quel que soit son ton ou son modèle de communication ou la manière de présenter son jeu. D'ailleurs, on sait bien que maintenant, les critères, c'est le nombre de followers. Et puis, de temps en temps, il y a même des influenceurs hors jeux de société qui sont sollicités pour certains jeux.
Oui, alors pas que le nombre de followers, ils cherchent aussi souvent la diversité. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre tous les comptes Instagram.
Ouais, voilà. Ah, ouais, il faut que les médias soient aussi un petit peu différents dans leur stratégie de communication.
Voilà.
Du coup, la course à l'auditeur, au liker, au commentateur, au viewer est donc de mise dans le secteur de la presse ludique. Mais ça, c'était un petit aparté.
Alors, oui, revenons à notre locomotive.
Oui, tout à fait.
Alors,
qu'est-ce qu'on peut, comment un jeu peut être transformé aussi en locomotive? Eh ben, les prix ludiques, en fait.
Oui.
Parce qu'à la base, tu peux avoir un jeu qui passe un peu à travers, comme ça, les rayons. Mais, donc c'est un peu moins vrai pour l'As d'Or que pour le Spiel des Jahres qui est en Allemagne, mais dès qu'un jeu gagne un prix de cette envergure, il paraît évident que le jeu aura une trajectoire commerciale différente de ses concurrents. Donc là, l'exemple de Colt Express nous montre clairement qu'un petit éditeur, petit entre guillemets, hein, surtout à l'époque, comme Ludonote, a réussi à vivre sur le succès et les ventes du jeu pendant quelques années, et était en confort pour pouvoir sortir des jeux un peu plus de niche, et dont certains qui ont peut-être été un petit peu trop loin, mais bon, Cédric, qui est le patron de Ludonote, s'est un peu fait plaisir, même si ça paye pas à chaque fois.
C'est sûr.
L'assurance de vente et de rentrée d'argent régulière offre un tapis confortable, ça c'est clair, en termes de création et d'édition ludique aux éditeurs, qui rêvent tous de sortir un jeu qui va transformer leur quotidien et leur niveau de trésorerie. Mais tout le monde n'a pas la chance de gagner un prix ludique prestigieux comme ces deux-là, comme l'As d'Or et le Spiel, et que nous sommes simples joueurs, nous avons tendance à minimiser l'impact financier des prix majeurs. Moi-même, très intéressé dans le marché du jeu, je ne peux pas te dire à l'heure actuelle quels sont les impacts financiers de ces prix-là. Il y en a qui vont annoncer des chiffres, il faudrait vraiment comparer les éditeurs pour voir à combien c'est multiplié par rapport à un jeu qui n'aurait pas eu de prix. Donc on se demande aussi si les différents membres des jurys ont aussi cela en tête, hein, quand ils font leurs choix finaux, ou bien si c'est juste le ludique qui est pris en compte, parce que maintenant de plus en plus la compétition s'est installée. Alors pourquoi donc ne pas tenter de toucher au Graal et de mettre sur le marché une poule aux œufs d'or, une vache à lait, ou comme on a dit, une locomotive qui permettra de vivre un futur plus ou moins proche de façon plus lisible et fluide? Quoi qu'il arrive, on peut vivre en tant qu'éditeur avec ou sans locomotive. C'est juste qu'en fait, la gestion de sortie du jeu et de création des jeux ne sera pas la même. Mais la tension au sein de l'équipe non plus. En fait, la valorisation des produits ne le sera pas non plus. Et on le sait bien qu'en termes de lisibilité sur le futur, c'est une des données qui est hyper importante, quel que soit le secteur d'ailleurs de production, mais encore plus dans le monde du jeu de société, Matt.
Merci Ludo.
À bientôt, bonne semaine.